Ensemble sur
Calade.
Ensemble sur Calade, les meilleurs moments. Et tout de suite, on retrouve donc mon prof, le prof Patrick, sur Calade. La semaine dernière, il nous parlait de la crise du coronavirus en crise humaine, on va dire. Bonjour prof, déjà.
Salut Mathieu, bonjour les auditeurs de Calade.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, toujours, toujours. J'ai la forme. Le monde s'écroule et je garde la forme. C'est le principal.
C'est important, oui. De quel sujet allez-vous nous parler aujourd'hui, prof ?
Pas toujours de la crise, hein. Je te dis, le monde s'écroule, donc on va quand même en parler un petit peu. On va regarder les conséquences économiques de cette crise. La semaine dernière, Mathieu, on a vu que cette crise qu'on traversait était la deuxième grande crise provoquée par l'activité humaine. La première, c'était le réchauffement climatique. Donc, les conséquences économiques, alors, je vais me limiter à l'Union européenne, parce que j'ai des chiffres précis, mais qui concernent l'Union européenne. Avant ça, il faut que je vous donne quelques notions d'économie, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Alors, notre système économique, ce sont des marchés sur lesquels s'échange une offre, c'est-à-dire des entreprises qui produisent et vendent les biens et services, et puis une demande, des individus, on dit les ménages en économie, qui achètent les biens et les services. Sachant que la demande, ça peut être aussi des entreprises et l'État hein, qui achètent des biens et services. Donc, notre économie, c'est une économie de marché avec une offre et une demande. Le grand économiste John Maynard Keynes, anglais, nous a expliqué, et il avait la plupart du temps raison, qu'une crise économique était provoquée le plus souvent par une demande insuffisante, pas cette demande. Alors ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les ventes baissent, donc les résultats des entreprises se dégradent, donc ça crée des licenciements, du chômage. Donc, les recettes de l'État se dégradent parce qu'il y a moins de taxes et d'impositions à prélever. Et donc, ça augmente les déficits publics. Bref, c'est la crise, quoi. Voilà. Donc, John Maynard Keynes nous dit la crise, c'est d'abord un manque de demande. Mais il y a l'autre école de pensée, l'école libérale, qui sont très largement dominants politiquement depuis les années 80, depuis la mondialisation. Eux, ils ont mis l'accent plutôt sur la question d'une crise provoquée par l'offre. Je m'explique. Concrètement, ça veut dire par exemple que les problèmes de compétitivité des entreprises françaises par rapport aux entreprises concurrentes étrangères comme les Allemandes, les entreprises anglaises, les entreprises italiennes, etc., ces problèmes de compétitivité des entreprises françaises peuvent entraîner une dégradation de leur performance, de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, etc., avec les mêmes conséquences que j'ai indiquées précédemment. Donc on peut avoir des crises de l'offre et des crises de la demande. Et la question qui se pose maintenant, que je vais te poser Mathieu, c'est cette énorme crise économique provoquée par le Covid-19, est-ce que c'est une crise de l'offre ou de la demande ?
Vous me posez une colle, prof.
C'est une bonne question, hein ?
Ouais.
Donc tu réponds, c'est une bonne question, je te remercie de me l'avoir posée, et comme ça t'évite d'y répondre. C'est comme ça que font les politiques.
C'est une bonne question, prof, je vous remercie de me l'avoir posée.
Très bien, et ben, je vais répondre à ta place, t'inquiète pas. Cette crise du Covid-19, c'est à la fois une crise de l'offre et une crise de la demande. C'est les deux, on est gâté, on est verni. Pourquoi ? Parce que du côté de la demande, une grande partie des Français, t'as remarqué, s'est retrouvée confinée chez elle, et puis pas que les Français, hein, beaucoup de pays dans le monde, et donc ils ont beaucoup moins consommé. Quand on est coincé chez soi, on dépense beaucoup moins d'argent, on consomme moins, donc choc d'offre. Choc de demande, pardon, excuse-moi. Du côté des entreprises, de fait, leur activité soit a été carrément stoppée, soit elle a été ralentie énormément. Donc c'est aussi un choc d'offre. Donc c'est un double choc qui contribue à ralentir de façon extrêmement violente l'activité économique. Alors ça, c'est pour les explications en termes de mécanismes. Maintenant, on va passer aux choses concrètes, on va passer aux chiffres. Alors, pour ça, je vais me référer au travail d'un économiste qui s'appelle Alexandre Mirly-Courtois, j'adore son nom, qui officie sur le site internet Xerficanal, excellent site de vulgarisation économique et managériale, que je vous conseille d'aller consulter le plus souvent possible. Les chiffres officiels de l'activité économique du premier trimestre de cette année 2020 sont tombés, d'accord ? Et je vais vous les donner, mais petite explication préalable supplémentaire. L'activité économique d'un pays, on la mesure par sa création de richesse. Quelle quantité de richesse elle crée ? Et la création de richesse d'un pays, on la mesure par un indicateur qui s'appelle le produit intérieur brut, le PIB. Alors cet indicateur en soi est très contestable pour diverses raisons qu'on ne développera pas aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais on va se baser sur cet indicateur-là. Pour vous donner des éléments de comparaison en temps normal, quand on a deux trimestres de suite, un ralentissement du rythme d'augmentation de la création de richesse, eh bien on va parler de récession. D'accord ? Et quand on a sur une année complète une création de richesse qui n'augmente pas, donc un taux de croissance à zéro, alors là, on dit que c'est une crise très sérieuse, voire même grave. Vous voyez, ça, c'est des références normales dans le monde normal d'avant la crise. Je vais vous dire les chiffres, là. Je vais vous faire peur, hein, d'accord ? On part d'une logique de quand on est à un taux de croissance de zéro, c'est grave. Alors là, vous allez comprendre. Pour la France, première information, la France est le pays de l'Union européenne où les résultats sont les plus mauvais au premier trimestre. Désolé. La baisse de création de richesse équivaut... Alors, les chiffres que je vais vous donner, je vais ramener ces chiffres du premier trimestre à un équivalent de croissance annuelle. Alors évidemment, ça va donner des chiffres très violents. Mais rien ne dit que les trimestres suivants ne vont pas être meilleurs et permettre de rattraper un peu la tendance. Donc peut-être que la croissance annuelle réelle ne sera pas aussi violente que celle que je vais annoncer, enfin la baisse de la croissance. Pour autant, on est sur ces chiffres-là que je vais utiliser dans tous les cas. La France, c'est le plus mauvais pays de l'Union européenne. Elle a une baisse en version annualisée de 21% du PIB. Moins 21%. Quand je vous disais qu'à zéro, c'est une crise grave, alors là, il n'y a plus de mots. Italie, moins 20%, Espagne, moins 18%, Portugal, moins 15%. Ça, c'est le premier groupe des pays qui sont les plus violemment touchés par cette crise, les pays d'Europe du Sud. Pour information, il faut rajouter la Belgique dans le groupe, hein, qui a un niveau de résultat aussi catastrophique. Le deuxième groupe, en termes de gravité, rassemble des pays dont le PIB chute en moyenne annuelle, annualisée, de moins 5 à moins 10%. Et dans ces pays, on a l'Allemagne, moins 8,6%. Le Royaume-Uni, moins 7,7%, et en vrac, l'Autriche, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark, donc pays d'Europe du Nord, en gros. Le troisième groupe, le groupe des petits vénards, c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis. C'est-à-dire soit que la baisse a été maximum de moins 2%, soit carrément ils sont en positif. Dans ces pays, on a la Finlande, la Bulgarie, la Roumanie, puis la Suède, la Pologne, la Hongrie et la Lituanie. C'est-à-dire beaucoup des pays d'Europe de l'Est, plus deux pays d'Europe du Nord. Bon, si on fait une moyenne annuelle, Bruxelles prévoit sur la moyenne de l'Union européenne une baisse de 7,4% du PIB, ce qui est monstrueux hein, sur l'Union européenne. D'accord ? Évidemment, très, très, très supérieur à ce qui s'est passé en 2009. Pour vous donner un ordre d'idée, la France a fait moins 3% de PIB en 2009, alors que là, le gouvernement annonce sur l'année un moins 11%. Nous, nos moyennes annualisées sont un peu excessives, du moins j'espère en tout cas, mais on est sur une crise bien plus grave que celle de 2009. Alors maintenant, Mathieu, si tu le veux bien, on va analyser les résultats. On a des chiffres, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on réfléchit à partir de là, hein, d'accord ? Et on en tire des conclusions. Alors, premier élément, bon, vous avez compris, hein, vu ce que je vous ai expliqué, seules les périodes les plus graves, c'est-à-dire les périodes de guerre et l'effondrement qui a succédé au krach de 1929, seules ces périodes-là peuvent être comparées à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Deuxième élément, le fait que les pays d'Europe du Sud, auxquels on a joint bien sûr la France et la Belgique, soient les plus impactés. Ça ne vient pas uniquement du degré de confinement très élevé de leur population. Ça vient aussi de deux éléments complémentaires. Premier élément, c'est le fait que ces pays-là sont d'abord des pays qui sont portés par le secteur des services, bien plus que l'industrie. Et les services sont le secteur qui a été le plus violemment touché par la crise. Pourquoi ? Mais parce que quand vous êtes dans le tourisme, quand vous êtes dans l'hôtellerie, les restaurations, quand vous êtes dans les transports, ben vous avez remarqué que tout s'est arrêté. Hein. Donc, ce sont vraiment les secteurs qui sont les plus durement impactés. Et quand ils vont reprendre, bah, ça ne va pas être la joie, parce qu'on sait les règles de distanciation sociale qu'on est en train de vivre et qui vont vraiment énormément perturber l'activité de ces secteurs. Donc, c'est la première raison pour laquelle donc, ces pays sont les plus durement impactés, les pays d'Europe du Sud, France incluse. Deuxième raison, bah, on peut aussi remarquer que ces pays sont aussi, avant la crise, les pays qui étaient les plus endettés, d'accord ? Au niveau de leur dette publique, je parle. Et il va y avoir une véritable explosion de la dette publique suite à cette crise et à tous les moyens qui ont été mis, on en parlera peut-être dans des chroniques ultérieures, pour se sortir de ce merdier. Donc l'explosion de l'endettement public qui va être provoquée eh bien, va les toucher alors que ce sont des pays qui sont déjà fragilisés et donc des pays qui ont une marge de manœuvre beaucoup plus faible. Conclusion de tout ce tableau absolument réjouissant.
Oui.
On pourrait dire que la crise de 2009, la dernière crise un peu dure hein, qu'on a vécue, avait révélé une coupure entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Une Europe du Nord très compétitive, en bonne santé économique, qui avait su se relever très rapidement de la crise de 2009, et une Europe du Sud qui avait décroché, sous bien des aspects. La France, à l'époque, se situait dans une sorte d'entre-deux. Pas aussi bien que l'Europe du Nord, pas en aussi mauvais état que l'Europe du Sud. Eh bien, pour notre plus grand malheur, la crise de 2009 va probablement confirmer et renforcer cette scission entre Europe du Nord et Europe du Sud, et risque malheureusement d'installer franchement la France, cette fois-ci du côté des perdants, du côté de l'Europe du Sud. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les premières conséquences de cette crise. J'ai été tout aussi positif et réjouissant que la semaine dernière, mais beaucoup reste à dire. Ne t'inquiète pas, on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines chroniques, Mathieu.
Bon, je ne sais pas si je dois vous remercier, prof.
Pour l'instant, je sais que je n'apporte pas la joie et le bonheur. J'essaie de parler de sujets qui font plaisir pour changer les idées de nos auditeurs.
Bon, on va faire une petite pause musicale et puis on va changer de sujet, effectivement, parce que le bilan de l'aspect économique, il n'y a rien de bien réjouissant à vous entendre.
Exactement. Merci Mathieu. Au revoir chers auditeurs, à très bientôt.
Allez, merci beaucoup, bonne fin de journée, à bientôt.
Vous écoutez le meilleur de
Ensemble sur Calade.